Réplique. De l'amour de soi à l'amour des autres, avec Philippe Chagnal et Michel Terestchenko. L'axiome selon lequel l'amour des autres ne serait qu'une déclinaison de l'amour-propre est aujourd'hui assez largement remis en cause. Non, l'homme n'est pas incapable d'éprouver des sentiments désintéressés. Mais alors à quoi ressemble cet amour des autres, ceux dont on n'attend rien, ceux avec qui l'on ne partage rien, ceux qui ne font pas partie de notre monde ? En 1982, la psychologue Carol Gilligan, professeure à l'Université de New York, publiait un ouvrage qui sonnait le début d'un renouveau d'une philosophie morale et politique, jouissant d'un engouement particulièrement fort au sein de la gauche américaine. Elle y remettait en question le modèle kantien de la morale, réfutant sa conception universelle et absolue qui n'accorde que peu d'importance à la sensibilité et au contexte. Selon elle, il existerait des distinctions fondamentales dans le développement psychologique des hommes et des femmes qui les conduiraient in fine à une conception différente de la morale. Les hommes seraient plus sensibles à la moralité posée dans des termes de droit, de justice, alors que les femmes, elles, se soucieraient davantage des personnes elles-mêmes et de leurs besoins. Aujourd'hui, cette distinction a été dépassée et l'éthique du care, c'est-à-dire une éthique de la sollicitude, s'inscrit avant tout dans une démarche de réhabilitation des sentiments et des émotions. Comment ce concept du care se constitue-t-il dans le champ politique, éthique et social ? Comment l'homme, sujet à l'égoïsme autant qu'à la compassion, s'accommode-t-il de ses sentiments contradictoires ? Quelles sont les modalités d'une compassion étendue à l'ensemble de l'humanité ? Quelle est la place du don dans nos sociétés modernes ? Ce seront certaines de nos questions du jour. Et pour y répondre, nous recevons ce matin Michel Terestchenko, maître de conférences en philosophie à l'Université de Reims. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages de philosophie morale et politique, dont Un si fragile vernis d'humanité, Banalité du mal, Banalité du bien, plus récemment Du bon usage de la torture ou Comment les démocraties justifient l'injustifiable, paru aux éditions La Découverte également. Bonjour Michel Terestchenko.
Bonjour.
À vos côtés, Philippe Chagnal, maître de conférences en sociologie à l'Université Paris-Dauphine. Vous êtes l'auteur de La société vue du don, manuel de sociologie anti-utilitaire. Utilitariste appliqué, paru aux éditions La Découverte. Vous êtes secrétaire général de la revue du MOS, mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales. La revue du MOS, dont le dernier numéro, le numéro 32, donc, est précisément consacré aux questions qui vont nous intéresser aujourd'hui. Son titre, L'amour des autres, care, compassion et humanitarisme. Bonjour Philippe Chagnal.
Bonjour.
Alors justement, la précédente revue du MOS se posait la question de savoir si l'homme est un animal sympathique. Celle-ci porte sur l'amour des autres. C'était la suite logique. Après, l'homme sympathique, c'est l'homme compassionnel, Philippe Chagnal.
Oui, c'est une évolution presque logique entre ces deux numéros qui ont été pensés ensemble. L'enjeu est le même, si vous voulez, par rapport à la revue du MOS. Depuis sa naissance, il y a déjà 25 ans, on essaye de s'opposer à toutes les formes de réductionnisme des théories dominantes en sciences sociales, à l'ensemble des théories qui tentent à considérer qu'au bout du compte, tout bien considéré, ce qui fait courir les êtres humains que nous sommes, c'est avant tout la question de l'intérêt ou avant tout la quête de pouvoir. Et donc au regard de cela, on a essayé d'ouvrir d'un point de vue peut-être plus positif la démarche qui est la nôtre, en essayant de nous interroger sur la question de savoir est-ce qu'il y a effectivement au-delà, mais tout en reconnaissant bien sûr la prégnance, des mobiles humains qui permettent de dépasser le registre trop exclusif de l'intérêt ou de la quête de pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle on a posé d'abord cette première question, clin d'œil, l'homme est-il un animal sympathique ? Questionner ce thème de la sympathie, qui est un thème très difficile d'un certain point de vue, car il renvoie à des définitions souvent très divergentes, mais dont le cœur consiste néanmoins à essayer de redonner à l'affectivité, au sentiment, à l'affect d'une façon générale, une place privilégiée dans les réflexions, tant en philosophie morale et politique qu'en sciences sociales.
Michel Terestchenko, vous avez participé à cette revue du MOS. L'éthique du care, on va y revenir évidemment plus précisément, mais c'est un concept qui est dans l'air du temps, l'éthique du care, Michel Terestchenko.
Pour n'importe quel pauvre, j'allais dire oui et non. Oui et non parce que quand même le combat que mène la revue du MOS et les philosophes et les penseurs, les sociologues qui réfléchissent autour de cette question-là, c'est quand même un combat qui est difficile, hein, parce que remettre en cause ce paradigme dominant que l'homme est essentiellement un calculateur intéressé, perpétuellement mu par la poursuite de ses intérêts particuliers, qu'il le sache ou non, etc. C'est un modèle quand même extrêmement dominant dans toutes les sciences sociales, en sociologie, mais en philosophie, enfin dans de très nombreux domaines. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de place, effectivement, pour cette réflexion, pour la sollicitude, le soin, le care, etc., chez certains philosophes, sans aucun doute. Mais enfin, c'est quand même un combat qui reste encore à mener, avec toujours, je crois, les difficultés, au regard du reste de ce que vous avez dit dans votre introduction, de savoir si on peut précisément fonder une morale sur ça. Et vous avez parlé, par exemple, effectivement, de la critique du kantisme, qui est un aspect, important, et la réévaluation de la sensibilité dans les conduites effectives. Je crois que ce qui est quand même très important dans cette affaire, donc de la compassion, de l'affect, de la bienveillance, enfin pour reprendre les notions clés, c'est pas tellement de fonder une morale. Je pense que nous y reviendrons, mais c'est d'abord effectivement, pour revenir à ce dont nous avons déjà parlé, remettre en cause ce paradigme, ce modèle, cette anthropologie qui consiste à dire que l'homme est essentiellement effectivement un individu mu par la recherche de l'intérêt particulier. Alors on appelle ça amour de soi, amour propre, alors avec parfois une espèce de confusion des concepts. Mais il y a d'abord une stratégie qui est une stratégie, j'allais dire, anthropologique, avant d'être une stratégie proprement éthique. Et dans le plan de l'éthique, ça pose un certain nombre de problèmes assez difficiles, malgré tout.
Alors, sur l'éthique du care, j'en parlais dans mon introduction, hein, c'est aux États-Unis que le débat sur l'éthique du care a émergé, notamment donc, sous l'impulsion de ce livre de la psychologue américaine Carol Gilligan, un livre d'ailleurs qui est paru en France au mois de septembre dernier chez Marion, sous le titre « Une voie différente pour une éthique du care », justement. Alors le mot « care » en anglais, hein, vous le disiez, c'est à la fois s'occuper d'eux, faire attention, prendre soin, se soucier d'eux, un terme qu'on pourrait traduire peut-être par sollicitude. Alors quelles sont les origines finalement de l'éthique du care et puis quelles sont les préoccupations de cette éthique, Philippe Chagnal ?
Oui, encore une fois, j'essaie de la remettre en contexte, même un peu rapidement. C'est-à-dire qu'elle ne tombe pas du ciel, cette éthique du care. Et ce qui est passionnant dans les débats philosophiques d'abord, mais également dans les débats de psychologie du développement moral, vous l'avez rappelé, c'est le fait de pouvoir articuler une réflexion générale tout aussi bien sur la question de l'identité personnelle, sur la question de la nature du lien social, pour ensuite penser des questions normatives en termes de théorie morale et de théorie de la justice. De ce point de vue-là, la remarque de Michel Terechenko est absolument essentielle. Et d'un point de vue sociologique, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on retrouve en définitive, à travers ces débats-là, issus d'abord principalement de perspectives féministes, comment on y retrouve la question fondamentale des sciences sociales, c'est-à-dire l'énigme de l'ordre social. L'énigme de l'ordre social, nous avons oublié que les pères précurseurs de notre discipline, si je parle ici de la sociologie, eh bien cette énigme, elle était saisie justement à travers l'identification de l'ordre social à un ordre moral. Cette dimension de moralité intrinsèque de l'ordre social, de moralité intrinsèque des relations sociales, est quelque chose de tout à fait fondamental. Et cela recoupe très directement des préoccupations de philosophie politique, c'est-à-dire que si l'on considère que l'ordre social est avant tout un ordre moral, il faut bien savoir qu'est-ce qui noue, en définitive, ces relations morales qui sont au cœur de l'être en société. Et de ce point de vue-là, en sciences sociales, comme Michel Terechenko l'a rappelé, eh bien on a eu cette tendance très très lourde à occulter cette dimension morale affective et sentimentale, au profit de quoi ? Eh bien, au profit d'analyses qui visent avant tout à mettre en avant des forces qui s'opposent, qui s'imposent aux acteurs, des calculs, hein, car le calcul, c'est quelque chose qui fait scientifique, et donc a été en grande partie refoulé cette teneur normative des relations sociales. Et je crois qu'il est indispensable aujourd'hui d'y faire retour, même déjà négativement, dans la mesure où les sciences sociales ont un vocabulaire d'une pauvreté, pourrait-on dire, en termes proprement sémantiques, qui est assez frappante. Alors comment renouer aujourd'hui avec ce discours, avec cette rhétorique des sentiments sociaux pour penser notre objet? Qu'est-ce qui fait lien? Qu'est-ce qui fait que les individus s'attachent les uns aux autres? Qu'est-ce qui fait que les individus s'attachent à la société? On a eu tendance à penser l'attachement sous la forme de la contrainte, de l'obligation, etc. Dans l'attachement aux autres, il y a une dimension d'amour. On peut l'évoquer en ces termes-là, hein. On est attaché aux autres, on est attaché à la société. Et cela, il s'agit d'en rendre compte. Et pour en rendre compte, il est nécessaire de dépasser toute une tradition philosophique qu'on a, au niveau de la revue du Mauss, identifiée à l'utilitarisme, mais qui est beaucoup plus large que cela. Hein, qui est beaucoup plus large que cela. Et le premier numéro de la revue du Mauss que vous évoquiez, « L'homme est-il un animal sympathique ?» avait pour sous-titre « Pour un controps ». Donc essayer d'aller au-delà de cette représentation de l'homme sous cette figure classique. Donc ça, hein, c'est de la guerre de tous contre tous.
Ça, c'est le contexte, finalement, dans lequel va émerger l'éthique du care.
Absolument. Et je le rappelle parce qu'un auteur aussi important que Johann Tronto, dont on va publier en janvier son texte fondateur hein, sur les frontières morales, eh bien, elle s'inspire très directement d'une vieille querelle qui peut nous paraître totalement dépassée, hein, la querelle du sens moral, la querelle animée justement par les Lumières écossaises dans leur lutte systématique contre le réductionnisme anthropologique de Hobbes, de Mandeville. Et c'est cette redécouverte du thème du sens moral, du thème de la sympathie qui constitue un aspect fondamental à sa théorie du Caire. Donc c'est bien sûr une théorie de la justice, mais également une théorie de l'identité relationnelle et une théorie du lien hein, qui ne saurait simplement se réduire à une logique du calcul, à une logique de la rationalité. Il s'agit de redonner tout son sens à la dimension affective, passionnelle des relations humaines et d'en envisager toutes les conséquences. Et il n'est pas tout à fait un hasard si ces conséquences ont à voir très directement avec des perspectives féministes dans lesquelles la dichotomie de la raison et de la passion, pour le dire vite, a recoupé la dichotomie du privé et du public et a mis en scène, bien sûr, la question de la domination masculine.
Michel Teresienko.
Oui, mais là, bien sûr, il y a beaucoup de... Je crois que cette question de la sollicitude, c'est quand même effectivement une dimension tout à fait fondamentale. Et c'est le grand refoulé, alors pas de la philosophie morale en général, parce qu'effectivement, il y a des querelles historiques qui se sont constituées au XVIIIe siècle, dans la critique précisément, donc, par exemple, des moralistes français, de gens comme La Rochefoucauld, des maximes et sentences de La Rochefoucauld, ces espèces de gigantesques manuels d'une extraordinaire efficacité où tout est ramené, effectivement, à l'intérêt propre, etc. Donc, mais dans la tradition, dans la tradition française, par exemple, dans la tradition ou continentale, les choses sont peut-être plus difficiles à assumer, bien qu'il y ait des très grands philosophes qui aient laissé une place à la sensibilité morale, ne serait-ce que Bergson. Bon, où cette notion est une notion tout à fait centrale. Donc, effectivement, mettre en évidence quelque chose qui relève de la sollicitude, c'est-à-dire expliquer. Au fond, c'est ça l'idée de base. L'idée de base, et c'était ça dès les pères fondateurs de cette philosophie du sens moral, c'est l'idée de dire oui, c'est vrai, les individus sont mus par des motivations intéressées qu'on peut qualifier effectivement d'égoïstes. Mais il n'en est pas moins vrai qu'il y a d'autres motivations, non moins originaires, non moins innées, non moins naturelles, qui relèvent effectivement de la bienveillance, de la sympathie, de la sollicitude, d'une certaine forme d'attention à autrui. Aujourd'hui, que l'éthique du cœur, par exemple, se soit développée dans un domaine qui est le domaine, par exemple, de l'éthique médicale, bon, de relations entre le médecin et le patient, et que sur cette base-là, on puisse en effet développer des réflexions qui vont bien au-delà de ce domaine spécifique. Bon, c'est revenir en réalité, effectivement, à la mise en évidence de cette détermination originaire, naturelle, innée, fondamentale, qui est que les hommes sont en réalité affectés par ce qui arrive aux autres et que s'ils sont affectés par ce qui arrive aux autres, c'est pas uniquement pour des calculs d'intérêt propre, mais que c'est donc en effet une détermination tout à fait constitutive de la nature humaine, qui renvoie donc au sentiment, à l'affect, à une manière en effet d'être mise en cause par ce qui arrive à autrui et qui n'est pas réductible.
Mais est-ce que ce sont des sentiments particulièrement féminins? Parce que c'est un petit peu ce qui a provoqué un débat aux États-Unis au départ, c'est que cette théorie donc de l'éthique du Caire, la théorie du Caire, oui. Disait que finalement c'était des vertus plutôt féminines. Hein, la compassion, la sollicitude sont plutôt des vertus féminines. Vous êtes d'accord avec cette idée qu'il y aura une éthique du Caire plutôt féminine, une éthique de la justice plutôt masculine?
Franchement, alors je ne suis pas du tout assez spécialiste, si vous voulez, des gender studies, sur ces questions du féminisme. Mais ma réponse, alors pour toutes sortes de raisons, mais moi je n'y crois pas vraiment beaucoup. Non, je n'y crois pas. D'abord parce que, alors si je prends du point de vue historique, historiquement, quand cette philosophie du sens moral, de la compassion, de la sympathie, de la bienveillance est constituée, ce n'était pas du tout dans ces catégories masculin, féminin, etc. Je ne dis pas que cette problématique de la domination ne soit pas absente, mais l'idée qui consisterait à dire qu'au fond les hommes obéissent à une espèce de froide rationalité et puis les femmes sont soumises à. Sont davantage capables de sympathie, de sollicitude. Il y a une raison très claire, qui, moi, m'apparaît tout à fait claire, et que, par exemple, j'avais évoqué, alors là, dans le livre dont vous avez parlé, dans Le vernis fragile, c'est lorsque l'on a les expériences de psychologie sociale de destructivité, par exemple l'expérience Milgram, où on voit effectivement des individus qui sont capables d'envoyer des décharges cruelles et se comporter en bourreau, eh bien, les comportements étaient strictement identiques s'agissant des hommes et s'agissant des femmes. Il n'y avait aucune différence entre l'un et l'autre. Mais je ne peux pas nécessairement généraliser ce qui a été mis en évidence à ce moment-là. Mais je crois que ce serait réduire, ou en tout cas entrer dans des polémiques peut-être inutiles et donner peut-être une vision un peu réductrice de dire que c'est un débat entre, ou une conquête en quelque sorte du féminisme, et de mettre au compte du féminisme ses sentiments de compassion. Je ne vois pas pourquoi il serait le propre des femmes spécifiquement. Rien ne me paraît justifier
Philippe,
ça.
Philippe Chagnal, cette opposition entre éthique de la justice et éthique du care, c'est une opposition, une vision dépassée, fausse?
C'est une vision, en tous les cas, qui est en débat. Et je pense qu'il faut souligner toute la richesse du débat autour des théories du care. Et revenons quand même sur la question des femmes et la question de l'identification de l'éthique du care aux femmes. Elle renvoie déjà à des travaux d'enquête très précis en psychologie sociale ou même des travaux de nature sociologique qui montrent que, d'une façon générale, les femmes sont beaucoup plus investies que les hommes dans les relations de soins, d'attachement, de sollicitude. C'est-à-dire toutes ces formes de relations qui supposent un fort engagement affectif. Et d'un autre côté, les hommes semblent porter plus d'intérêt avant tout à leur construction individuelle, au registre de l'autonomie. Ils sont davantage du côté de la distance affective par rapport aux autres, etc.
Pour quelle raison, selon vous ? Est-ce que c'est lié aux rôles sociaux des hommes et des femmes ?
Alors, d'abord, je pense que la dimension de constat est importante. C'est-à-dire, on peut effectivement, comme vous l'avez rappelé, Carol Gilligan a tenté de le faire, mettre en scène une autre voie, une voie différente qui a pu être mesurée. Alors, cela a été fortement critiqué, mais néanmoins, rappelons-nous du point de départ que vous avez simplement évoqué. Carol Gilligan s'oppose à la théorie du développement moral d'un psychologue disciple de Piaget, qui montre qu'il y a différents stades qui permettent d'accéder à la maturité morale. La maturité morale est identifiée à une morale détachée, à une morale des règles, à une morale universelle, selon un continuum, si vous voulez, assez relativement mécanique. Et dans ce classement-là, qui identifie la moralité au détachement, à l'impartialité, à l'universalité, les femmes se voient, au regard des enquêtes faites, taxées d'immaturité morale. Donc le point de départ était celui-là, c'est-à-dire que sur une échelle de développement moral, les femmes sont reléguées, elles n'accèdent pas au fameux stade 6, elles accèdent simplement à des stades inférieurs. Donc Gilligan s'intéresse à cela pour essayer de montrer est-ce qu'il n'y a pas un biais particulier dans les conceptions qui sont les nôtres de la morale, qui l'identifie justement à la justice, au registre des droits, des choses relativement anonyme et détaché des relations. Donc le premier combat qui a été mené a été d'essayer de renverser un peu cette indignité. C'est-à-dire, les femmes n'accèdent pas au stade 6, mais est-ce qu'il n'y a pas une dimension morale qui est absolument essentielle, qui est occultée, qui est dénigrée d'un certain point de vue, et faire de cette sorte de handicap moral justement une sorte d'atout pour essayer d'enrichir la théorie morale et d'enrichir la théorie de la justice. Cette dévalorisation de cette éthique de la sollicitude renvoie, dans la perspective féministe, à un fait, non pas tant un fait naturel qu'à un fait historique, qui est le fait de la domination des femmes. Alors tout l'enjeu ensuite va tourner autour de cette question-là, c'est-à-dire est-ce que cette voie différente, elle doit être valorisée dans la mesure où elle permet de marquer, si vous voulez, un rapport à la morale distinct chez les hommes et chez les femmes, ou alors est-ce que l'on va simplement considérer que ce déficit moral, eh bien, renvoie et seulement à une forme de domination. Et à partir de cela, vous aurez des voix dites maternalistes qui vont considérer que c'est la relation mère-enfant qui constitue en quelque sorte l'épure de la relation morale, avec ses dimensions contextuelles, avec cet aspect strictement relationnel, contre toutes les éthiques généralistes. Le fameux paradoxe qui est à l'origine de tout cela, c'est le dilemme de Heinz. Peut-être que vous connaissez cette histoire-là. Heinz a une femme qui est gravement malade. Il a besoin, pour la sauver, d'un médicament qui coûte très cher. Il va voir le pharmacien. Il n'en a pas les moyens. Qu'est-ce qu'il doit
faire ?
Alors,
qu'est-ce qu'on fait ?
Voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on laisse mourir sa femme ? Ou alors, est-ce qu'on adopte une autre stratégie qui peut consister à voler le médicament pour sauver sa femme ? Par rapport à cela,
les différentes alternatives possibles. Mais ce qui est très, très important, c'est pas tant que les femmes ou les jeunes filles et les jeunes garçons interrogés soient tantôt favorables au fait on abandonne l'affaire parce qu'il y a un droit absolu de propriété. Ça, c'est le stade 6. Hein. On ne remet pas en cause le droit de propriété, un droit formel. Mais ça peut être aussi l'inverse. Non-assistance à personne en danger constitue une sorte de droit abstrait universel. Et ce qui était intéressant, c'était de montrer que le problème, en tous les cas, les dilemmes moraux des jeunes filles interrogées étaient... consistait à ne pas choisir, si vous voulez, une sorte de solution abstraite, générale, impersonnelle. Hein, il ne faut pas voler, droit de propriété, il ne faut pas laisser une personne en souffrance abandonnée. Était justement de valoriser la relation. Qu'est-ce qu'on peut faire dans la relation avec le pharmacien? Comment on peut discuter avec lui pour lui faire entendre, effectivement, la nécessité du soin? Donc, ce point est un point tout à fait fondamental, car à partir de cela, on voit bien que c'est un autre registre qui se met en scène. Et la question va être de savoir, est-ce qu'il faut moraliser le genre, c'est-à-dire assigner effectivement une dimension de genre à cette voix différente des femmes, ou est-ce qu'au contraire, c'est la stratégie de Toronto, essayer de dégenrer la morale et de montrer par là même que la sollicitude, le soin, bien sûr, pour un certain nombre de raisons historiques, a été assignée aux femmes, mais aujourd'hui, qui s'occupe des personnes en souffrance ou des personnes dépendantes, pas simplement les enfants, les personnes âgées, etc. On voit que le critère de genre est opérant, mais sont également opérants les critères de classe. C'est plutôt les classes populaires qui s'occupent de ce travail de la sollicitude, de ce travail du care, mais également les personnes issues de l'immigration qui le font. Donc d'un coup, c'est un cadre beaucoup plus vaste qui se met en scène.
Michel Terechenko, vous êtes d'accord avec Joanne Trando quand elle dit qu'il faut soustraire à l'éthique du care le genre des individus pour sauver la morale ?
Ah oui, alors, oui. Autant, bien sûr, au regard de ce que vient de dire Philippe Chanel et sa conclusion, ça, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'aurais beaucoup de réserves à l'endroit de catégoriser ou voire d'ontologiser, si je ne puis dire, dans des catégories masculin, féminin, ce sentiment, qui est un sentiment, je crois qu'on peut mettre au compte, de détermination affective naturelle et qui ne renvoie pas, en tout cas de façon tout à fait fondamentale, à la distinction homme-femme qui serait tout d'un coup érigée effectivement dans une catégorie ontologique. Là, j'aurais beaucoup de réserves à l'endroit de ça. Non, au contraire, la question, en fait, la vraie question, mais c'est ce qu'on dit, une des plus grandes difficultés, mais pas simplement aujourd'hui, mais quand on réfléchit à ces questions aujourd'hui.
C'est savoir si on peut fonder une morale
sur l'éthique du care. Mais voilà, c'est ça. C'est en réalité, qu'est-ce qu'on montre ? On montre que la sollicitude, la bienveillance, la compassion, c'est vraiment un opérateur des relations humaines absolument fondamental, qui est irréductible à tout égoïsme, etc. Donc c'est un véritable opérateur. Très rapidement, on s'aperçoit, c'est entendu, les hommes sont en effet mus par, donc les êtres humains, comprenons-nous bien, sont mus par ces motivations qui relève d'une certaine forme de désintéressement. Alors, on pourra peut-être revenir sur cette catégorie du désintéressement. Mais ce n'est pas quelque chose qui peut être... Ce n'est pas un affect qui peut être généralisé. Au fond, la formule, elle est donnée par Hume. C'est l'idée que cette générosité, c'est une générosité restreinte. On a plus de sollicitude pour ses enfants que pour ses amis, plus pour ses amis que pour ses voisins, plus pour ses voisins que pour les citoyens, et plus pour les citoyens que pour les étrangers. Donc, il y a l'idée d'une espèce que... Et toute cette problématique de la distance ou de la proximité avec l'idée, au fond, qu'il y a une espèce d'intensité décroissante, que plus les êtres sont éloignés de nous, et moins nous en sommes donc proches, et plus, d'une certaine manière, effectivement, l'intensité de cet affect sympathique ou de bienveillance se décroît. Donc il y a une espèce de loi psychologique, mais qui est réelle, qui est en effet constatée, que tout le monde constate, que dans le fait, nous avons plus de sollicitude pour nos enfants que nous en avons pour les enfants des autres, tout simplement. Bon, ça ne veut pas dire qu'on est indifférent aux enfants des autres. Et donc là, il y a un constat qui est un constat effectivement de psychologique. Bon, on peut sans aucun doute montrer que la bienveillance est un opérateur social qui va au-delà, en effet, des relations de proximité, des relations familiales, et qui agit enfin de façon tout à fait essentielle dans toutes sortes de comportements, d'engagement, de dévouement, etc. Bon, mais Alors, est-ce qu'on peut fonder la morale sur cet opérateur du lien social et du lien humain qu'est la sympathie? Les philosophes disent, ont beaucoup de difficultés. Un philosophe comme Kant dit non, c'est pas possible, parce que la morale, c'est la morale du devoir, c'est la morale des impératifs catégoriques et universels. Tu ne mentiras point, devoir de véracité en toutes circonstances. Bon, des choses qui sont relativement bien connues. Donc, par exemple, Kant dit c'est très bien de fonder la morale sur le désintéressement, parce qu'il n'y a pas de morale qui ne soit une morale qui ne relève en réalité du désintéressement, mais le désintéressement doit être fondé sur autre chose que la sensibilité et la sympathie. Mais alors du coup, vous avez une morale qui est une morale universelle, une morale de l'impératif catégorique, mais dont vous ne vous souciez pas en réalité de savoir si elle correspond aux raisons pour lesquelles les hommes agissent. Vous fondez en quelque sorte une morale a priori, mais après, vous ne pouvez pas en réalité rendre compte des conduites humaines sur la base simplement de cette morale, parce que vous vous apercevez que les hommes qui agissent avec bienveillance, avec dévouement et parfois de façon héroïque. Moi, j'avais analysé par exemple le cas des justes pendant la Seconde Guerre mondiale qui incarnent pour nous quand même l'image même d'une certaine forme d'héroïsme moral, mais ils n'ont pas du tout agi pour des façons de façon kantienne. C'est évident que la sollicitude, la bienveillance, l'attention, le care, etc. était une détermination tout à fait fondamentale. En même temps, il n'y a pas de devoir d'héroïsme moral. Enfin, toutes ces, ce sont des questions qui sont en réalité extrêmement, extrêmement difficiles. Et puis, je voudrais ajouter une chose qui, moi, m'intéresse énormément, c'est pourquoi est-ce que dans la philosophie morale, il y a une catégorie qui est une catégorie tout à fait absente, qui est la catégorie de la bonté. Il n'y a quasiment pas de philosophe qui ait jamais raisonné à partir de la bonté, à part Rousseau, mais la bonté n'est pas morale chez Rousseau, et chez Lévinas, où la bonté est du côté de la sainteté. Donc la philosophie morale...
Et pour vous, la bonté, c'est une composante de la morale ?
Ah, mais vous posez une question qui est très difficile, parce que les hommes qui agissent avec bonté...
Je crois que vous en parliez sur votre blog il y a quelques jours.
Oui, j'ai fait un petit mot. Vous avez raison. J'ai fait un petit mot sur ça parce que d'un côté, on rabat la bonté sur la nature, comme Rousseau, mais du coup, c'est pas du côté de la morale. Alors donc, c'est une espèce on la rabat sur la, ou bien on l'étend et c'est plus qu'une extension sur la sainteté. Mais d'une certaine manière, on échappe au champ de la morale. Bon, il y a des philosophes qui ont voulu fonder la morale sur la pitié, les philosophes donc effectivement anglais du XVIIIe siècle, mais aussi un homme comme Schopenhauer. Bon, mais Schopenhauer, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en réalité, c'est pas tellement de fonder, si vous voulez, la morale sur la pitié. C'est de dire, et c'est l'argument est plus important, c'est de dire, c'est très bien de dire que la morale, c'est agir par devoir et que le devoir nous dit qu'il faut agir ainsi en telle ou telle circonstance, mais il faut quand même que vous mettiez quelque chose qui relève d'une incitation, d'une force, quelque chose qui pousse les hommes à agir. Or, en réalité, aucun homme n'a fait le bien simplement parce que c'est un impératif moral, faire le bien pour le bien, par devoir, selon cette espèce d'obéissance sens à la morale telle que Kant le définit. C'est pas vrai, ça fonctionne pas comme ça. Si vous analysez les conduites effectives des individus qui font le bien, et donc qui d'une certaine manière incarnent quand même effectivement l'action morale, parce que faire le bien c'est quand même agir de façon morale, ils ont agi pour d'autres raisons. Il y a cette part effectivement fondamentale, originaire en effet de la sollicitude, de l'attention, de la compassion, de la bienveillance effectivement qui relève de cette éthique du cœur. Ça on peut pas l'éliminer. En même temps, tout le monde n'était pas. Il n'y a pas une obligation à être, et pas une obligation à être juste à être juste au sens où on parle des justes pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire de hommes qui mettaient en péril leur propre existence et celle de leurs enfants. Donc, on a beaucoup de difficultés sur ça.
Philippe Chagnal, sur cette question centrale de savoir si on peut fonder une morale sur l'éthique du care.
Je crois que c'est une autre façon de penser et de fonder la morale dans le cadre de l'éthique du care. C'est-à-dire que par rapport à ce que Michel vient de rappeler, c'est pas une éthique de la vertu. Donc, c'est la raison pour laquelle la question de la bonté ne peut pas y être. Absolument central. Non, c'est une éthique tout ordinaire. Hein, et cela est revendiqué à plusieurs titres par un certain nombre d'auteurs. Il s'agit de partir justement d'une autre conception du sujet, d'un sujet relationnel, d'un sujet interdépendant. Je crois qu'il y a une dimension très très importante qu'on a évoquée par rapport à la question de l'affect et sa dimension de passivité, c'est le thème de la vulnérabilité. Hein, je crois que c'est pas une éthique de héros en ce sens-là, ou même de héros kantien, hein, ou de héros dans sa capacité justement à se dégager du tissu des relations dans lesquelles on est pris. Hein, le point de départ, c'est le fait de la vulnérabilité, c'est le fait de l'interdépendance.
C'est ce qui nous rend humain, la vulnérabilité ?
Bah absolument. Enfin, c'est l'une des caractéristiques fondamentales de notre condition humaine, même si cette vulnérabilité, on la trouve tout aussi bien dans d'autres espèces. Mais néanmoins, à partir de ce fait de la vulnérabilité, hein, qui est la vulnérabilité du petit enfant, d'où l'importance
de la relation entre la mère et l'enfant, mais c'est aussi la vulnérabilité dans sa vie adulte, c'est la vulnérabilité face à la mort. Cela montre que, de ce point de vue-là, pour fonder une éthique qui n'est pas une éthique de la fusion, faire très attention à cela, l'éthique du care, ce n'est pas une éthique de la fusion des sentiments, d'une sorte de sympathie qui viendrait, de ce point de vue-là, anéantir la séparation des personnes. Il s'agit d'essayer de réfléchir sur les cheminements qui font de nous des sujets. Or, pour accéder à l'autonomie, la porte, c'est la porte du collectif, c'est la porte de la relation. Donc je crois que cette idée de la vulnérabilité est quelque chose d'absolument essentiel, hein, car elle permet de rendre compte du fait premier de l'interdépendance et comment nous organisons cette interdépendance pour pouvoir cheminer dans notre vie commune, pour pouvoir, dans le cadre de ce cheminement éminemment difficile, hein, conquérir notre statut de sujet. Donc il n'y a pas d'opposition systématique entre ce registre du collectif, de la communion, de l'affect, et puis un registre qui serait celui de l'autonomie individuelle. Au contraire, hein, c'est un cheminement très complexe qui exige que l'on prenne en compte justement l'affectivité qui circule entre les individus, qui circule dans les relations personnelles, qui sont également, contrairement au modèle héroïque des grandes philosophies morales classiques, qui sont des relations asymétriques. Hein, c'est la prise en compte de l'asymétrie qui est fondamentale. Hein, c'est-à-dire qu'autant la loi kantienne que, et on pourrait la mettre sur le même point, hein, les réflexions de type utilitariste, elles reposent sur des formes de réciprocité ou d'égalité relative entre les sujets. Là, le point de départ est bien celui-ci. Comment on peut prendre en compte la symétrie? Comment on peut se nouer des liens dans le cadre de relations asymétriques?
Philippe Chagnat, la réciprocité, oui, c'est une norme indispensable à la stabilité d'un système social?
Ben justement, ça a été l'un des enjeux importants de discussion dans le numéro. C'est-à-dire qu'on peut considérer que la norme de réciprocité, elle est presque comparable à la prohibition de l'inceste. C'est-à-dire que l'ensemble des relations humaines fonctionne en grande partie sur cette exigence de réciprocité, c'est-à-dire ce que l'on fait aujourd'hui à autrui est lié à ce que l'on a reçu de lui hier, de ce qu'il peut effectivement nous offrir aujourd'hui ou de ce qu'il pourrait nous offrir également demain. Donc cette dimension de réciprocité, elle est fondamentale. En anthropologie, elle l'est d'une façon très claire depuis Lévi-Strauss. Mais néanmoins, on voit bien, dans des situations d'asymétrie, la réciprocité n'est plus possible. Que faire face à ceux qui peuvent certes recevoir, qui doivent recevoir au regard de leurs besoins, mais qui sont incapables de donner à leur tour, de rendre? Et cette question de la réciprocité, elle ouvre un autre champ. Et là, c'est un texte vraiment important, David Guldner, qui est un grand sociologue américain. Eh bien, cette question, c'est la question de la générosité. Comment s'articule l'exigence de générosité, donner quelque chose contre rien, et en même temps, l'exigence de réciprocité, c'est-à-dire ce registre du rien pour rien, hein, de donner quelque chose contre quelque chose.
Michel Terestchenko, sur cette question de la réciprocité.
Oui, d'abord, je crois que c'est un point extrêmement important, même dans le domaine de la philosophie, dans le domaine de la philosophie politique et de la philosophie du droit. Juste un instant, pour que les choses soient claires, c'est ce que disait Philippe Chanel sur la question de la vulnérabilité, parce que ça, c'est une notion qui, pour moi, est absolument fondamentale et absolument centrale. Je crois que dans ce qui vient d'être dit, la vulnérabilité, c'est une attention à l'endroit du vulnérable, hein, c'est-à-dire de l'être en tant qu'il n'est vulnérable, et ce qui rejoint d'ailleurs la question de la réciprocité, c'est-à-dire il est dans une condition telle qu'il s'agisse de l'enfant, qu'il s'agisse du malade, qu'il s'agisse de la personne rejetée, enfin bon, qu'elle ne peut précisément pas rendre. Bon, donc il n'y a pas là d'obligation, il n'y a pas de condition de réciprocité. Il peut y avoir une obligation de réciprocité de la part de celui qui reçoit, c'est autre chose, mais pas de condition de réciprocité. Donc la vulnérabilité, c'est effectivement une attention à l'endroit du vulnérable, en tant que cette attention à l'endroit du vulnérable n'est pas conditionnée par sa capacité à rendre, et en tout cas à rendre immédiatement. Et ça, c'est tout à fait fondamental. Sur la vulnérabilité, ça, c'est un autre sujet. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur cette question. Mais voilà. Donc, en tout cas, c'est l'être en tant qu'il n'est vulnérable, et l'être en tant qu'il n'est vulnérable, qui est en effet l'objet de la sollicitude, mais d'une sollicitude qui n'est pas, il faut, je crois, le dire aussi, qui n'est pas méprisante, qui n'est pas dans une relation hiérarchique, enfin, inégalitaire, d'une espèce de don écrasant, si j'ose dire. La sollicitude n'est pas écrasante. Il n'y a pas lieu systématiquement de voir. Par exemple, il y a un concept, j'ai parlé du concept de bonté qui est si difficile à penser dans la philosophie morale et qui est au fond un grand absent. Mais il y a une autre notion qui est connotée religieusement et qu'on peine à utiliser et qu'on n'ose pas utiliser, qui est la notion de charité. Bon, ça, vous dites que vous avez agi par charité, c'est quelque chose de tout à fait scandaleux et inadmissible, à moins d'une certaine manière d'être dans un registre immédiatement et qu'on s'entende, et dans des milieux, si vous voulez, on s'entend sur ces registres. Mais la charité, c'est c'est quelque chose de tout à fait inadmissible. Alors qu'en réalité, elle s'est constituée historiquement dans une autre conception de l'amour que la conception grecque, que la conception platonicienne, que la conception de l'éros, bon, etc.
Mais donc, alors justement, est-ce que l'amour des autres est envisageable en dehors du champ de la religion ?
Ah oui, oui, oui. Ça, alors là, oui. Oui, d'abord, pour une raison très simple, mais alors, qui est difficile, mais c'est pas la difficulté, c'est pas que ce soit immédiatement lié à un registre religieux. La grande difficulté philosophique, mais j'allais dire pas seulement philosophique, mais quasiment idéologique, c'est que ça renvoie à quelque chose qui relève de la nature. Alors, comme vous le savez, le concept de nature ou de nature humaine, c'est quand même un concept qui n'est pas très bien vu dans la philosophie moderne ou dans l'anthropologie moderne. Il n'y a pas de nature, enfin bon, etc. On connaît toute cette argumentation. Donc c'est pas tellement que la connotation soit immédiatement une connotation religieuse, chrétienne. D'ailleurs, on ne voit pas pourquoi elle serait spécifiquement chrétienne. Elle pourrait aussi bien être bouddhiste, puisque quand même la compassion tient une place tout à fait centrale. Non, c'est l'idée que ça renvoie à, voilà, que nous sommes affectés originellement, naturellement, sans que nous le voulions, par ce qui arrive aux autres et que ça nous touche. Et que ce n'est pas du tout vrai que ce qui nous intéresse, c'est simplement ce qui nous intéresse nous-mêmes, enfin ce qui nous intéresse au sens d'un intérêt particulier. Donc il y a quelque chose qui relève de la nature. Et tous les philosophes, effectivement, qui, alors, dans cette controverse historique dont nous avons parlé, dans la critique, donc à la fois de Hobbes, à la fois de Mandeville, mais aussi des moralistes français, bon, et de ces grands textes admirables, bien sûr, que sont par exemple Les Sentences et Maxime de la Rochefoucauld, c'est quand même un texte absolument formidable. Et ce qui est très frappant, c'est que quand on lit Les Sentences et Maxime, on dit, mais bien sûr, il a absolument raison. On est tous quand même intéressés. La libéralité, l'amitié, l'amour, et tout ça, c'est quand même un gigantesque calcul. Enfin bon. Donc on est assez fascinés par cette formidable rhétorique. Donc la vraie difficulté, il me semble, c'est pas tellement effectivement la référence religieuse, mais plutôt que la référence à une espèce de naturalisation, effectivement. Sinon de la morale, en tout cas, des rapports humains, oui.
Philippe Chagnal.
Oui, je crois que cette dimension immanente est quand même très très importante. C'est-à-dire que je crois que l'un des apports de la théorie du Caire, comme un des apports contemporains de la théorie de la reconnaissance, et je crois que c'est très convergent également avec la théorie du don, c'est d'essayer de penser, en prenant le risque, qui est un vrai risque intellectuel, hein, des formes de naturalité du lien moral, ce qui n'empêche pas, bien sûr, hein, d'étudier leur mise en forme institutionnelle, qui sont très très variées. Évidemment qu'ils sont très très variés. Mais avec cette idée toute simple, pourrait-on dire, c'est qu'on ne part pas de rien. Et ce « on ne part pas de rien » renvoie peu ou prou à ce que Michel Terechenko a parfaitement rappelé. C'est cette capacité de pouvoir être affecté. Donc une sorte de première dimension de passivité. Mais cette dimension de passivité, elle ne fait pas le tout, bien sûr, de ce type de relation morale. Et lorsque j'évoquais tout à l'heure cette question fondamentale de l'asymétrie, cette question fondamentale de la vulnérabilité, on voit bien ce que ça signifie. Dans le cas des relations de sollicitude entre la mère et un enfant, par exemple, entre les parents et les enfants, et peu importe celui qui apporte soin à ses enfants, ce n'est pas toujours la mère, ce n'est pas toujours la mère biologique, on peut voir ça dans une multiplicité de sociétés différentes. Si, effectivement, il n'est pas traité en termes étroits de justice, c'est parce que l'on considère simplement que l'enfant n'est pas un adulte et qu'on n'a pas à lui appliquer la catégorie des droits, car cela constitue une relation qui viendrait le considérer effectivement comme étant lui-même un adulte. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'un enfant serait, pourrait-on dire, cantonné dans cette relation asymétrique. Ce qui est très intéressant dans l'éthique de la sollicitude, c'est justement l'idée de la circulation du soin. C'est-à-dire qu'on est receveur de soins, un enfant est un strict donateur de ce point de vue-là. Mais néanmoins, on peut penser aussi à la relation pédagogique, qui est une relation asymétrique avec un enseignant qui donne à ses élèves, qui permet ainsi de transmettre un savoir. Mais il y a toujours cette possibilité qui reste sans cesse ouverte. C'est pour ça qu'il y a bien un lien étroit entre la question du care, de la sollicitude et le don. Ce couple conceptuel, activité et passivité, il est susceptible d'un jeu par lequel celui qui a effectivement reçu hier, pourra donner peut-être à d'autres demain. Donc cette circulation elle est très très importante parce qu'elle noue des relations morales qui sont des relations constitutives des relations sociales. Et lorsque j'évoquais ce point-là, que l'éthique de la sollicitude, et j'en suis pas du tout, moi non plus, un spécialiste, on s'est intéressé au terme du care, dans un cadre beaucoup plus général, il y a ce sujet des personnes qui le connaissent beaucoup mieux, je veux citer ici Sandra Logier, Patricia Paperman ou Fabienne Brugère. Bon, j'évoque ce point-là parce que, effectivement, le pari est bien celui de savoir dans quelle mesure et avec quelle extrême limite on peut tenter d'enraciner une théorie morale dans des relations de fait que l'on peut décrire, qui renvoient à des expériences fortes, qui sont celles de l'ensemble des sociétés. Il y a un autre universalisme, pourrait-on dire. Non pas un universalisme abstrait, mais un universalisme des relations et des situations. Et je crois que ce point de départ, il est fondamentalement neuf. Il laisse totalement ouvert la question soulignée par Michel, qui est de savoir, comme tous les philosophes écossais l'ont montré, il y a des limites, effectivement, à une morale de la bienveillance. C'est-à-dire qu'elle s'opère dans ce qu'on appelle en sociologie le champ de la sociabilité primaire, entre proches, dans des relations d'interreconnaissance, d'abord la famille, ensuite des formes de famille élargies, les amis, les voisins, etc., etc. Et là, ce qui devient énigmatique et très intéressant d'un point de vue théorique, c'est de savoir comment, justement, ces relations-là, qui sont fondamentalement, me semble-t-il, des relations de don, sont susceptibles de se généraliser, de s'universaliser. Mais là, au lieu de mettre en scène une sorte de grand saut, si vous voulez, entre une sorte de morale ordinaire, qui philosophiquement n'est pas très, très intéressante, c'est des sentiments, c'est s'occuper des gamins, etc., et puis de l'autre, des droits, des déclarations de droits, etc., c'est de réfléchir aux formes de médiation qui peuvent permettre, avec un certain nombre de réserves, avec un certain nombre de limites, des formes de généralisation de cette morale tout ordinaire à une morale beaucoup plus générale qui pourrait permettre de faire exister justement une communauté de citoyens. Ce qui veut dire, pour le retraduire dans mon langage des formations professionnelles du don, comment on passe du don entre proches au don entre étrangers. Et ça, c'est une question absolument fondamentale et qui a été réfléchie par un certain nombre d'auteurs. Et on peut inscrire dans cela une multiplicité de choses. C'est-à-dire comment ouvrir la sympathie. Elle peut s'ouvrir par la littérature, elle peut s'ouvrir par des espaces institutionnels comme des associations où on n'est plus simplement entre proches, mais avec des personnes étrangères. Comment le droit aussi peut constituer un moyen d'élargir des relations de solidarité. Mais en même temps, l'hypothèse de continuité, si elle est tentante, elle présente un certain nombre de risques, et ça on n'a pas pu l'évoquer peut-être ensemble suffisamment, c'est que l'amour des autres, ou même le fait que l'homme soit un animal sympathique, c'est une bonne nouvelle, et c'est aussi la pire des nouvelles.
Michel Terestienko, oui. Sur cette question de la libération des circulations, de la circulation des dons.
Oui, je crois qu'au regard de ce qui vient d'être dit, il faut, comme il y a en effet beaucoup de difficultés au regard de cette question de l'extension de la généralisation, je crois qu'il y a une notion et un élément fondamental qu'il faut réintroduire si l'on veut véritablement parler d'éthique, et la notion de respect. C'est-à-dire quand même la reconnaissance de l'humanité de l'autre. Parce que la bienveillance et cette éthique de la bienveillance, on sait très bien effectivement qu'elle peut parfaitement, et précisément parce que c'est une éthique d'abord de la proximité, de ses membres de sociabilité primaire, etc., décroît à mesure effectivement que les individus deviennent plus proches, jusqu'au point où l'étranger devient tout à fait l'anonyme. Mais que se passe-t-il lorsque l'étranger, ce n'est pas simplement l'anonyme, mais ça devient véritablement une figure de l'inhumanité. Bon. Et donc on peut parfaitement accompagner une politique de la destructivité telle que les systèmes totalitaires ou les idéologies totalitaires l'ont pu faire, tout en sans que ce soit nécessairement contradictoire avec une éthique de la bienveillance. Et donc c'est très important, au fond, il faudrait essayer de surmonter l'opposition entre le sentiment et le devoir, entre la raison pure et la sensibilité, montrer qu'il y a en effet une détermination originaire à la sympathie, mais qu'il faut évidemment qu'introduire un élément de rationalité et d'exigence formelle ou d'exigence normative fondamentale qui est la condition effectivement du respect de l'humanité de l'autre. Il y a un philosophe qui avait assez bien essayé de faire ça, par exemple entre Adam Smith et Kant, qui est Ernst Tugendhat dans ses conférences sur l'éthique, où il dit au fond ce qui compte chez Kant c'est pas fondamentalement l'impératif catégorique, l'universalisation, etc., c'est le principe du respect. Et ça, s'il y a le principe du respect, alors qui conditionne en quelque sorte, enfin qui conduit à la reconnaissance toujours de l'humanité de l'autre, il y a un fondement qui peut accompagner ce sentiment moral. Sans quoi ce sentiment moral peut en réalité aussi justifier les conduites les plus inhumaines, si précisément l'autre est précisément dénué d'humanité. Donc ça, c'est quelque chose qui est, je crois, tout à fait central. Et donc il n'y a pas nécessairement d'opposition entre le sentiment et la raison, entre la sensibilité et la réflexion, entre le devoir et en effet la bienveillance, etc. On peut articuler tout ça de façon relativement cohérente, sans qu'il y ait de sacrifice d'une certaine manière d'une notion à l'autre. Le sentiment qui serait sacrifié comme chez Kant d'une certaine manière au devoir, etc. Cette condition-là, je crois que la condition du respect, de la reconnaissance de l'humanité de l'autre est absolument essentielle, parce qu'on sait très bien ce qui se passe lorsque précisément l'humanité de l'autre est niée. Bon, et c'est la porte ouverte à tout. Et la bienveillance, alors là, ne conduit nullement à un rempart et une sauvegarde.
Michel Terestienko, tout à l'heure, vous avez soulevé la question sans vraiment y répondre sur la question du don. Est-ce qu'on peut faire un don sans rien attendre en retour? Je vous renverse la question. Est-ce qu'on peut faire un don sans rien attendre en retour?
Je crois, oui. Mais il ne faut pas conditionner. Il ne faut pas dire qu'il n'y a de don que si d'une certaine manière, il n'y a pas d'attente au retour. C'est-à-dire qu'une chose est de dire que dans la réalité, effectivement, la relation mère-enfant, la relation parentale, c'est très souvent un argument qui est pris. Bien évidemment, le don est assez naturel, le don relève d'une espèce de gratuité généreuse, dispendieuse, naturelle, si vous voulez, etc. Mais on ne compte, mais il n'y a pas lieu de dire que le don n'est véritablement un don, que le don n'est véritablement pur, parce que c'est alors introduit toute la problématique de la pureté du don, autour duquel, qui est une espèce de piège. Le don est pur, le don n'est réel que s'il est pur, il n'est pur que s'il est totalement désintéressé, et il n'est totalement désintéressé que s'il est totalement sacrificiel. Alors il y a cet aspect-là, par exemple chez Jacques Derrida, une espèce de morale totalement hyperbolique, etc., qui pousse, à mon avis, à des excès spéculatifs qui ne sont pas du tout nécessaires. Le don, oui, peut être tout à fait généreux, mais on n'a pas besoin de le conditionner à cette espèce d'exigence de pureté d'un désintéressement radical et au fond sacrificiel. Et c'est un grand piège, ça.
Philippe, c'est un grand piège, et je crois que les théories du cœur nous permettent de réfléchir à cela. En revenant sur ces thèmes que j'évoquais tout à l'heure de l'asymétrie, il y a une dark side of care aussi, c'est-à-dire dans les deux sens. La relation de sollicitude, si on la comprend véritablement dans le registre du don de soi aux autres, bref, dans un registre sacrificiel, il y a cette première dimension du sacrifice de soi pour l'autre. Et puis également, il y a l'autre aspect qui est également très, très, très important. Il y a ce don qui peut être considéré comme une sorte de don un peu omnipotent, c'est-à-dire le don de soi à celui qui ne peut réciproquer, qui ne peut rendre à son tour. C'est une forme de don poison, au sens de mot. C'est-à-dire un don qui ne permet pas à l'autre d'entrer dans une relation, d'entrer dans le cercle de l'échange. Il y a cet aspect-là. Et la dark side of care renvoie à quoi ? Le versant noir de la sollicitude, c'est que la sollicitude, ce n'est pas simplement une disposition morale, c'est un travail. Et je crois que c'est très, très important. Johann Tronto l'a fondamentalement marqué. C'est un travail. Il faut décrire ce travail-là. En quoi consiste porter soin à ? Qui le fait ? Dans quelles conditions ? Auprès de qui ? Or, ce travail-là, il y a un poids, il y a un burden of care qui fait que la sollicitude, elle se joue dans des tâches répétitives, qui sont parfois ennuyeuses, dans un travail exigeant, où on est justement à traiter cette asymétrie fondamentale. Pensez aux infirmières qui s'occupent des personnes âgées, etc. Qu'est-ce que ça veut dire au quotidien, ce travail-là répétitif, de s'occuper de ces personnes-là ? Donc, l'héroïsation du care,
l'angélisation du
care, il a effectivement sa face d'ombre. Et ça nous renvoie directement à la question du don. C'est-à-dire que, par rapport à cela, pour sortir effectivement de ce jeu un peu pervers, à la fois le sacrifice de soi au profit des autres, et puis peut-être le sacrifice de l'autre, qui est placé dans une situation où il ne peut en aucun cas rendre, je crois que la question du respect, effectivement, elle est fondamentale. Et il me semble que dans les théories du care aujourd'hui, cette question du respect, elle joue un rôle très important, au sens où il faut sortir de cette logique du don de soi, il faut arrêter de trop privilégier les sentiments moraux, parce qu'on risque d'enfermer, de ce point de vue-là, le rapport à autrui dans la stricte partialité, ou alors tout simplement de faire l'expérience d'un épuisement des ressources morales dans la relation. Donc la question du respect me semble très très importante ici. Elle permet de réguler la relation et de laisser toujours ouvert, c'est quelque chose à laquelle je suis très attaché, cette dimension de chaîne de la sollicitude, ou de chaîne du don, ou de cycle du don. C'est-à-dire la réversibilité du soigné et du soignant, du donataire et du donateur.
Philippe Chanel, justement sur ce sujet, l'ancien président des États-Unis, Bill Clinton, avait publié en 2007 un livre justement sur le don. Il soutenait que le don n'était pas une affaire marginale. Le titre était tout à fait éloquent. « Giving, how each of us can change the world ». Donner, comment chacun de nous peut changer le monde. Ça vous étonne comme ça qu'un éminent représentant de la classe politique s'intéresse comme ça au don, fasse l'apologie du don ? C'est quelque chose d'étonnant ?
C'est pas étonnant du tout au regard de la culture américaine. Mais je crois qu'il faut
mais
aller au-delà.
Mais en regard du fait que les États-Unis sont quand même la première puissance économique au monde, que c'est la loi du marché.
Ben justement, l'intérêt, c'est de voir comment se juxtaposent ces deux injonctions contradictoires. Et de ce point de vue-là, le livre de Clinton, tel qu'il est commenté et discuté par Jacques Godbout dans le numéro de la revue, il est tout à fait symptomatique de quoi ? De cette double injonction qui fait que nous devons être, nous modernes, tout à la fois jouisseurs, hédonistes, utilitaristes. Il y a ce discours qui est fondamental. Et dans ce pays que constituent les États-Unis, il est central. La quête d'accumulation, etc. Cette dimension individualiste forcenée. Et en même temps, autre injonction qui est paradoxale par rapport à la première, c'est cette injonction d'être absolument altruiste. Mais ce qu'évoquait Michel Terechenko à l'instant est très très important. C'est-à-dire que d'un côté, voilà, nous avons disjoint deux registres que toutes les sociétés peut-être avant les nôtres ont toujours articulé, l'intérêt et le désintéressement.
hein, si on essaye de rendre compte des modalités de construction des relations sociales, lorsqu'on étudie le don dans les sociétés traditionnelles, on voit comment, et c'est Mauss qui nous l'a appris, se mêlent sans cesse l'intérêt, le désintéressement, la générosité, la réciprocité. On pourrait dire que nos sociétés, le discours de Clinton de ce point de vue-là, il est passionnant, ont systématiquement clivé ces deux registres. On est totalement intéressé ou totalement désintéressé. Mais totalement désintéressé, ce n'est pas possible. Donc, de certains points de vue, on voit bien cette dimension presque schizophrénique qui est assez frappante dans le livre de Clinton et qui mérite d'être discutée.
Michel Tereschenko, un dernier mot. Bill Clinton, Maussien, le don.
Non, mais je ne prendrai pas nécessairement l'exemple de Clinton, mais par exemple l'exemple de Bill Gates. Moi, je n'ai pas envie, si vous voulez, je vais dire les choses bêtement, je n'ai pas envie immédiatement d'y voir une espèce de calcul et de dire, oui, s'il a fait sa fondation, c'est uniquement pour faire vendre sa marque. Etc. J'y crois pas. Je crois que ce n'est pas vrai. Je crois qu'un homme comme Bill Gates peut sincèrement, je vous le dis tout à fait sincèrement, consacrer la plus grande majorité de sa fortune à rendre ce qu'il a non seulement réussi, mais je crois aussi ce qu'il a reçu. Et je suis tout à fait convaincu, je ne le connais malheureusement pas, je crois qu'il peut tout à fait comprendre sa propre réussite aussi comme de l'ordre effectivement du don d'un talent, et que ce don il faut le rendre, et qu'il n'y a pas de raison a priori en tout cas, sauf à apporter la preuve, d'y voir systématiquement un calcul économique, financier, stratégique, etc.
Merci beaucoup Michel Tereschenko, merci beaucoup Philippe Chanel, c'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut présentée aujourd'hui encore par Florian Delorme avec la collaboration de Claire Poinsignon, Didier Lagarde et Jean-Michel Bernaud. La semaine prochaine, vous aurez le plaisir de retrouver à ce même micro Alain Finkielkraut puisqu'il reviendra aux manettes de Réplique après ses quelques semaines d'absence. Nous lui souhaitons donc un très bon retour en même temps qu'une bonne année. Il recevra samedi prochain Michel Rocard et Paul Thibault pour une discussion autour de la crise financière et économique mondiale. Mais pour l'heure, c'est Concordance des temps par Jean-Noël Jeannet. Bon week-end et excellente année 2009 sur France Culture.